Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récents ou passés regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables, qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes, et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Sachez également que je viens de publier un nouveau roman aux éditions Legacy, un roman intitulé « Le trésor du marquis ». Je vous invite à aller le voir. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire peu banale. L'histoire d'une escroquerie, somme toute assez classique, mais réalisée avec un tel sang-froid et une telle audace que l'on ne peut que rester pantois devant le culot de ceux qui en furent les auteurs. Tout commence au cœur des années folles. Nous sommes en 1930 dans une petite ville de province. Louis-Charles Durand est chaudronnier dans une entreprise locale. Tous les matins, il se rend au travail. À midi, il déjeune à la cantine. Et le soir, eh bien, il rentre retrouver sa femme et son fils dans sa modeste maison de banlieue. C'est une existence bien rangée et tranquille, mais qui ne convient pas vraiment à Durand, qui s'en accommode pourtant sans se plaindre. Et puis un jour, il rencontre Jeanne Gauthier, une femme un peu plus jeune que lui, jolie frimousse, un regard un peu triste. Lui n'est pas très grand, mais bel homme, une chevelure abondante et de grands yeux sombres. Le courant passe aussitôt entre eux et, très vite, ils deviennent amants. Durand a trouvé une nouvelle raison de vivre. Il est plus gai, plus enjoué. Mais bientôt, cette nouvelle existence commence à lui peser. D'un côté, une jeune maîtresse qui le comble de ses charmes, de l'autre, une épouse certes jolie et un bambin adorable, mais qui l'enracine dans une existence terre à terre. Alors, Durand se prend à rêver. Et s'il fuyait avec Jeanne vers un pays plein de soleil où il ne vivrait que de passion? Et à cette époque-là, ce pays existe. Il se trouve de l'autre côté de la Méditerranée et se nomme Algérie. Alors, après mûre réflexion, un soir, tandis que la maisonnée est endormie, Durand jette un dernier coup d'œil dans la chambre de son fils qui dort comme un innocent et quitte le domicile avec une simple valise pour rejoindre Jeanne. Oh, ils ont préparé leur fuite depuis un moment déjà. Les billets, l'argent pour trouver un appartement, les économies pour démarrer une nouvelle vie, le temps de trouver un travail. Ils ont pensé à tout. La sirène du navire qui quitte le port tire un trait définitif sur l'ancienne vie des deux amants. Constantine est une ville comme il l'avait rêvé, balayée par une légère brise qui s'est chauffée au sable du désert, avec de hauts minarets d'où partent régulièrement des appels à la prière et des marchés pleins de couleurs sur lesquels les Arabes vendent des fruits, des légumes, des épices ou encore des étoffes chatoyantes. La vie y est agréable et Louis-Charles Durand finit même par trouver un travail de chaudronnier. Mais les salaires ici n'ont rien à voir avec ceux pratiqués en France, et bientôt l'argent vient à manquer, d'autant plus que le couple vit à l'hôtel et ne regarde pas toujours à la dépense. Peu à peu les choses se dégradent et bientôt Durand se retrouve dans une situation pire que celle qu'il a quittée quelques mois plus tôt. Il faut trouver une solution et vite. Une idée germe alors dans son cerveau. Il se rend dans une compagnie d'assurance et souscrit une police de 150 000 francs qui reviendra à Jeanne au cas où il décéderait. Et là, je suis sûr que vous avez déjà compris le plan. Comme je vous le disais en préambule, ce genre d'escroquerie est assez classique. s'assurer sur la vie et faire croire à sa mort, l'idée n'est pas nouvelle. Non, ce qui est original dans cette affaire, c'est la manière incroyablement audacieuse de procéder. Moins d'un mois après avoir souscrit cette police d'assurance, Jeanne entre affolée dans le bureau du directeur de leur hôtel. « Mon mari est très malade, il faut vite prévenir un médecin, supplie-t-elle. » Elle n'oublie pas de donner au directeur de l'hôtel l'adresse d'un médecin qu'elle connaît bien et dont la réputation d'incurie n'est plus à faire. Lorsque l'homme de l'art arrive, il trouve effectivement Durand au plus mal. L'homme fait une forte poussée de fièvre, il est pratiquement dans le coma. « Ma pauvre dame, c'est un transport au cerveau. J'ai bien peur, hélas, que votre époux ne passe pas la nuit. Et vraiment, il n'y a rien à faire. » Jeanne s'effondre et pleure toutes les larmes de son corps. Le médecin tente de la rasséréner, lui donne quelques calmants qu'elle fait mine de prendre avant de les recracher dès qu'il a le dos tourné. Le médecin ne peut pas se douter que son patient a avalé peu de temps avant 24 cachets de quinine. Le pari était risqué, car à cette dose, il aurait très bien pu faire une crise cardiaque, mais le jeu en valait peut-être la chandelle. Toujours est-il que le lendemain matin, Durand émerge de son coma frais comme un gardon. « Voilà, à présent tu es mort, s'amuse Jeanne. »« Pas encore assez, rétorque son compagnon. » Et sur ce, il se saisit d'une solution de permanganate de potassium dont il se badigeonne les mains et le visage afin d'obtenir une teinte cadavérique, et puis il se recouche. « Voilà, à présent, je suis vraiment mort, » dit-il en fermant les yeux. L'illusion est parfaite, mais suffira-t-elle à tromper le médecin et les employés des pompes funèbres ? Rien n'est moins sûr. Jeanne court en larmes chez le directeur de l'hôtel, elle frappe aux portes des voisins, et bientôt la chambre est envahie de personnes compatissantes venues témoigner leur respect aux morts. Retenir sa respiration, ne laisser échapper qu'un léger filet d'air sans mouvoir la poitrine, ne pas tressaillir, ne rien montrer. Durand n'en mène pas large tant il a peur que la supercherie soit découverte. Mais personne ne remarque rien. Quant au médecin, il ne se déplaça même pas. C'est Jeanne qu'elle alla le voir pour lui demander un certificat de décès que l'homme lui signe sans le moindre soupçon. Si ça, ce n'est pas de la chance, car un simple examen aurait suffi à démontrer la supercherie. Reste à présent à passer le contrôle des employés des pompes funèbres. Là encore, la chance sourit aux escrocs. Les croque-morts mettent le corps en bière, mais ne remarquent pas qu'il est encore chaud et souple. Il faut dire que la température ambiante avoisine les 35, peut-être 40 degrés. Il dépose Durand dans le cercueil et s'apprête à le sceller lorsque Jeanne les arrête. « Attendez un instant. Dans notre religion, il y a un rituel à respecter. L'épouse doit déposer quelques objets personnels dans le cercueil et rester seule quelques instants avec son mari pour le dernier adieu. » Les hommes des pompes funèbres se regardent étonnés. Ils ne connaissaient pas cette coutume. Mais après tout, si c'est le désir de cette femme... Ils se retirent donc quelques instants. Le temps pour Durand de s'extraire de son étui funéraire et de déposer à sa place un mannequin rempli de sable et portant les mêmes habits que lui. Avant que les hommes chargés de sceller le cercueil ne reviennent, Durand court se cacher dans une armoire et ne bouge plus. Jeanne referme consciencieusement la porte à clé. Les porteurs de cercueil décalent légèrement le couvercle pour vérifier que tout est en ordre. Ils aperçoivent les vêtements du mort. Tout va bien. Ils referment définitivement le couvercle et emportent le cercueil. Un peu plus tard, Jeanne vient libérer son amant, qui est à bout de souffle. « Ouf, j'ai bien cru que j'allais mourir pour de bon là-dedans. Il fait une chaleur d'enfer. » Jeanne sourit. Qui sait ? Elle y avait peut-être pensé. Les funérailles ont lieu dès le lendemain, en raison de la forte chaleur qui règne dans la ville. Jeanne suit le cercueil éplorée. Les voisins et les amis sont venus la soutenir, car elle chancelle presque à chaque pas. Durand, quant à lui, assiste à ses obsèques depuis la fenêtre d'une chambre d'hôtel située non loin de là. C'est une belle cérémonie. L'escroc en est même ému. Lorsque le cimetière est enfin vide, il ne résiste pas à la tentation d'aller se recueillir sur sa propre tombe. Les couronnes de fleurs et les messages de sympathie lui arrachent même une larme. Mais à présent, il est temps de toucher le pactole. Sans attendre, Jeanne se rend chez l'agent d'assurance auprès duquel son complice a souscrit une police. Elle encaisse la moitié de la somme. L'autre partie sera payée au siège à Paris. C'est une somme très importante et la procédure est ainsi. Après avoir acheté une magnifique automobile 6 cylindres, le couple rejoint donc la France par les petites routes, par petites étapes, choisissant les plus grands hôtels et les meilleures tables pour faire escale. Diantre, c'est que cet argent ne leur a pas coûté bien cher. Jeanne court encaisser la seconde partie du butin et la belle vie continue. Finalement, le couple décide de se ranger et achète une petite exploitation agricole près de Villefranche. À partir de là, les deux amants vivent une petite vie tranquille et personne ne se serait douté de rien si Durand, grisé par un premier succès dans l'arnaque, n'avait tenté un second coup. Un coup bien moins important que le premier, et c'est ce qui fait tout le pathétique de la situation. À Lyon, il achète une pompe pour son exploitation. Et s'il ne la payait pas ? Alors il demande au vendeur d'envoyer la facture à un nom bidon. Le premier qui lui vient à l'esprit est celui de son ancien patron. Après tout, ce type l'a exploité durant des années, ce n'est qu'un juste retour de manivelle. Sauf que bientôt, ce dernier reçoit la facture et bien entendu refuse de la payer. Il mène son enquête, et dans la description qu'on lui fait, il reconnaît son ancien employé. « Oui, mais Durand est mort. J'ai même vu sa veuve en deuil », explique-t-il à l'inspecteur Morandi de la Sûreté lyonnaise, auquel il rapporte cette étrange histoire. Morandi est un vieux limier et il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Il mène une rapide enquête et repère le faux mort et vrai escroc. Lorsqu'il l'interpelle, Durand balbutie, se perd en explications, puis finalement craque et avoue tout. Direction la prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Attention, il ne s'agit ici que de rumeurs. Mais on dit que la police algérienne, au moment où elle ouvrit la fosse sépulture de Durand, découvrit dans le cercueil un authentique cadavre. Un cadavre qui reste à ce jour non identifié, le couple d'escrocs s'en tenant à la version du mannequin. Quelle étrange histoire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu'il advint des deux amants, cela nécessiterait de nouvelles recherches et pourrait faire un jour l'objet d'une nouvelle investigation dans cette série « L'écrivain mène l'enquête ». En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Hervé Michel et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle incursion dans le monde du crime et de l'étrange.